Vous écoutez
RMC.
Bon, démarrons l'évaluation. Les gars, il y a un truc à dire à Maignan aujourd'hui ? C'est comme contre la Suède, rien à dire.
Moi, je vais dire un truc sur Maignan.
Ouais.
Je pense qu'il devrait, comment dire, beaucoup plus utiliser la relance rapide et longue. Il l'a fait à la 52e.
Ah, sur Mbappé.
Sur cette très belle ouverture pied fouetté, enfin le dégagement là, vers Kylian, qui a raté son contrôle parce qu'il partait seul au but. Mais plusieurs fois, je le vois très bien intervenir dans la surface. Et si on organisait Mbappé ou un autre attaquant dans un angle pour effectuer une relance à la main rapide, je pense qu'il y aura des situations de contre-attaque très intéressantes. Je pense qu'il a largement les moyens de le faire. Il devrait le tenter plus souvent.
Ouais, il l'a déjà fait. Après, quand t'as des joueurs adverses qui se mettent en opposition, et c'est ce qu'ils ont essayé de faire après, c'est pas forcément facile pour lui de relancer. Mais on sait que Mike, il a un très 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 bon pied. Ouais.
Bon, à l'époque, on avait Bernard Lama qui faisait de relance à la main dans le camp adverse. Ça se voit plus trop. Mais bon.
C'est à lui que je pensais.
Défense centrale, les gars, là c'est pareil. Bon, ils n'ont pas eu énormément de boulot ce soir. Bon. Quoi, Upamecano,
c'est pris quelques solide, coups de coude. J'ai vu sur une.
Saliba, on l'a vu faire des courses où il a miminable ses adversaires, ce qui n'était pas le cas lors de.
Exactement, j'étais en train de penser à ça. Sur les rares incursions paraguayennes, j'ai vu un retour de Saliba à fond les ballons où il ne s'est pas laissé prendre par la vitesse de l'attaquant. Non, charnière centrale ce soir, là je ne vois pas ce que. Non. Là, je pense Max et Sam, ils pouvaient faire la charnière ce soir.
Je les trouve énormes depuis le début de cette compétition. En effet, Saliba, sur quelques matchs, notamment à cause de sa blessure au dos, on le sentait parfois gêné, mais là, je l'ai trouvé parfait.
Non, mais vous ne pensez pas que tous les deux, vous pouvez faire charnière ce soir, tellement il n'y a pas d'attaque en face?
Moi, je peux pas, en tout cas. Sam peut-être peut encore jouer. Moi, ça va être beaucoup plus compliqué.
Après, il n'y avait pas forcément grand-chose à faire, c'est
bah
sûr.
Oui.
Mais
tu avais juste à
être sur le qu'ils devaient faire, ils l'ont très bien fait et je trouve qu'ils se complètent très bien. C'est une charnière centrale pour moi de très 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 haut niveau.
Bien
et
sûr.
Ils arrivent à être très bons dans l'anticipation, dans les duels 1 contre 1. Ils sont très bons, même si c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de poids
en attention,
face. Mais ils l'ont fait et comme je pense, c'est ce que tu vas dire, c'est que dans ce genre de match, il faut faire très attention, c'est que tu en as peut-être une ou deux d'action à faire et il faut être très bon et je trouve que mentalement pour moi c'est ça un défenseur aussi, c'est dans les duels ok, mais dans la gestion de son match, dans les moments forts ou dans les moments importants, c'est là où il faut répondre présent et je trouve que ils arrivent à le faire, il y a peu d'erreurs de leur part et pour moi ça prouve leur niveau actuel.
Ouais. Ouais, je suis d'accord. Toi, t'as souvent été d'ailleurs dans les équipes qui avaient la possession. Moi, c'était plutôt l'inverse. J'étais plutôt dans les équipes bloc bas. Mais on a tendance justement à c'est pas facile, en fait, quand t'es défenseur central et que t'es dans une équipe où t'as 80% de possession. Derrière, tu as 2 ou 3 actions où tu dois bien les gérer. Et ça demande aussi énormément de concentration. Et c'est là que moi, j'ai envie de mettre en avant ces deux-là. Parce qu'à chaque fois qu'ils ont quoi? Ils ont cette accélération d'Almiron. Derrière, ils sont à 2 contre 1. Ils arrivent à bien la gérer. Alors que c'était une contre-attaque quand même qui était dangereuse de la part des Paraguayens. Donc, non, pour moi, je vais être très honnête avec vous. C'est la base de cette équipe de France. Elle fait évidemment partie de cette épine dorsale. Je pense que ça fait très longtemps, et peut-être que Sam va être énervé contre moi, mais qu'on n'a pas eu une défense centrale aussi forte en équipe de France.
Je peux répondre?
Bien sûr.
Je vais répondre. Après, moi, je ne suis pas trop dans les... pour essayer de comparer, parce que il y a eu des défenseurs de très haut niveau en équipe de France, mais sur celle-là, je peux le dire, c'est une défense centrale, en tout cas de très haut niveau. Mais je pense que ça sert à rien de comparer
t'as juste envie de te mettre au-dessus, c'est ça, avec...
Non, jamais de la vie. J'oserais même pas faire ça. J'oserais même pas faire ça. Mais je pense que il faut pas comparer et que le moment là actuel, on a la chance d'avoir des centraux de très grande qualité. Il faut parler que de ça, de ce qu'ils sont en train de faire.
Je vais chipoter sur un truc concernant Upamecano. Il l'a fait 2 fois dans le match ce soir. C'est-à-dire qu'il s'est pris des coups. Et en fait, quand il récupère le ballon, parfois, il peut la donner tranquillement à Maignan et puis on passe à autre chose. Et en fait, il garde le ballon dans les pieds, il s'appuie sur le mec qui vient lui mettre la pression en mode, de toute façon, toi, tu peux toujours venir, tu l'auras pas le ballon. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai. Et il essaie de se retourner vers le petit côté pour relancer. T'as l'impression que c'est pour donner l'impression au gars avec qui le duel que, voilà, de toute façon, toi, t'es mort, tu feras rien. Donc, je vais te montrer que je peux relancer malgré toi. Alors qu'il pourrait juste la donner à Maignan et hop, tu repars.
Mais ça veut aussi dire qu'il est juste trop fort, en fait. Qu'il s'amuse avec. avec les attaquants. Il y en avait qui disaient qu'aujourd'hui l'Amérique fêtait sa liberté, tu sais, et que Upamecano, lui, il avait pris la liberté d'Enciso. Tellement il avait été sur ses côtes, il l'avait complètement éteint, quoi. Non, moi, ce que je peux reprocher, entre guillemets, à ces deux, et Sam aussi est bien placé, c'est que peut-être il ne marque pas assez. Voilà. Les défenseurs centraux doivent être. Je te parle d'Upamecano et de Saliba. C'est vrai que c'est important d'avoir justement, et dans ce genre de match où est-ce qu'on a du mal à trouver l'ouverture dans le jeu. Et bien d'avoir mais des défenseurs centraux qui te libèrent. Et tu l'as fait, Sam, Raph l'a fait. Oui. Enfin, je veux dire, c'est important quand même.
D'accord. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis totalement d'accord. Mais pour moi, c'est quand on parle d'un défenseur, il faut pas oublier, c'est un défenseur. Il doit être capable de défendre son but, aider son équipe à ne pas encaisser de but. Donc oui, si t'as la possibilité d'apporter offensivement, ça soit même, parce que là tu dis de marquer des buts, mais ça soit même dans la qualité de passe. Mais pour moi, un défenseur central, c'est un défenseur central avant tout. Et après ça, pour moi, c'est.
Après, si le ballon te rebondit sur la, si le ballon te rebondit par hasard sur la tête dans une demi-finale de Coupe du Monde, ça ne fait rien. Après, tu prends. Si t'es là, t'es là, quoi, tu vois. Bon.
Mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas comparer. Mais on a la chance d'avoir de très grands centraux parmi nous, en tout cas dans cette équipe de France.
Lucas Digne a définitivement gagné sa place.
Oui, bah oui, mais ça c'est un vieux débat, Gilbert. C'est bouclé, ça.
Vous êtes d'accord, les gars?
Je suis d'accord.
Très grosse performance pour moi encore.
Bon, Koundé, on a déjà dit, on en a déjà parlé. Comment, Sam, tu évalues le match d'Adrien Rabiot?
Adrien Rabiot, pour moi, c'est comme toute l'équipe, pour moi, qui a été au service de ses coéquipiers. Et à la fois, on l'a vu à certains moments, qui voulait être dans la surface sur les centres pour apporter un peu plus de présence aussi, parce que de la tête, il est assez efficace. Mais pour moi, il fait un match correct. Il a été bon dans les récupérations de balles, dans l'équilibre aussi de l'équipe. Donc il a fait le job qu'il fallait faire aujourd'hui. Donc belle prestation d'Adrien Rabiot.
Vous êtes d'accord, les gars, sur
Mais moi, je trouve que c'est un match où, finalement, qui n'est un match qu'offensif. Donc, toute la partie défensive du jeu ne mérite même pas de commentaires, sauf si un mec se déchire et écoute une occasion ou un but. Je vois même pas réellement comment en parler. Donc, de Rabiot, je retiens son travail au milieu et ses tentatives de frappe. Mais j'ai même pas envie de lui en vouloir pour ses frappes qui sont parties ailleurs, là, parce que au moins, il a tenté quelque chose et il a appliqué une règle qui est pour moi importante. Quand t'as le bloc comme ça, tente de loin. Il l'a fait, il a raté, c'est pas grave. J'aime quand on ose et quand on a l'audace de faire ce genre de truc. Mais moi, les matchs de Koné, de Rabiot, en fait, j'ai l'impression que les bleus d'aujourd'hui ne peuvent être analysés que si on analyse le caractère et le jeu offensif. Le reste.
Alors, Samuel doit nous laisser, hein, parce que lui aussi doit repartir avec la BO de Rocky et aller courir sur les marches là-bas à Philadelphie. On va ouvrir un dossier Dembélé. Est-ce que tu es d'accord si je dis que Dembélé, un peu comme contre la Suède, a été le moins en vue des quatre de devant?
Bon, moi je dirais que c'est Olise.
J'ai posé la question à Samuel. Ouais, okay.
Le moins en vue, je trouve que c'était dur. Et encore une fois, quand on le trouvait, il était à chaque fois... il y avait à chaque fois deux joueurs sur lui, donc c'est très compliqué. Et si je me souviens bien, on l'a trouvé une ou deux fois où il était un contre un. Il a réussi à rentrer dans la surface ou à frapper. La frappe, elle a été contrée. Il a fait ce qu'il a pu. Mais moi, je trouve que cette équipe du Paraguay l'a mis en difficulté, hein, avec ses prises à deux. Donc c'était attendu. Pour moi, c'était attendu qu'il fasse ce match-là. C'était pas forcément évident pour lui, mais oui, ça soit lui ou même après Olise, qu'on a un peu plus vu quand il y avait un peu plus d'espace. Mais c'était compliqué pour ces joueurs offensifs de se mettre en avant. Hein.
Olise,
merci peut-être. Samuel, on te laisse.
Merci à vous. Ça, okay.
À très vite.
Allez, ciao. Salut Sam, à bientôt. Ciao. Olise a peut-être fait son moins bon match depuis le début de la compète.
Tu trouves?
Ouais, j'ai trouvé assez effacé.
Bon, je trouve qu'en deuxième mi-temps, on l'a vu quand même.
Ouais, mais maintenant, le truc, c'est qu'on en attend toujours énormément. C'est devenu notre vedette.
Il est passé à côté de son match.
Je n'ai pas trouvé
bon ce soir. Ouais. Mais attention, c'est très difficile de jouer contre des équipes qui jouent comme ça. Bloc bas, c'est toujours la même histoire. Quand on les voit, ces matchs-là, t'es obligé de critiquer les joueurs offensifs, puisque justement c'est QFD. Si tu ne marques pas et si tu butes sans arrêt sur le béton de l'adversaire, bah c'est que tes joueurs offensifs trouvent pas la faille. Donc tu te demandes pourquoi tu trouves pas la faille, et souvent ça vient de tes joueurs. Barcola fait un mauvais match aussi. t'es obligé de dire ouais, ça.
Lisez,
mais
Marco,
ça m'embête de le dire parce que c'est plutôt l'adversaire qui pousse à être pas bon.
Il y a une vérité aussi, Daniel.
Pardon ?
Il y a une vérité. Il y a une vérité. Je suis d'accord avec toi. Alors,
oui,
c'est compliqué, en fait, de critiquer.
C'est une vérité qu'il faut relativiser parce que c'est l'adversaire qui te rend mauvais. C'est ça qu'il faut dire.
Mais ça fait partie aussi.
Ça fait partie du jeu. C'est de la stratégie. C'est de la tactique. L'adversaire te rend mauvais. L'adversaire a rendu mauvais notre jeu offensif. Il l'a annihilé. Tu n'as gagné que 1-0 par le biais d'un joueur qui entre en jeu, qui a provoqué, qui a obtenu un pénalty. Tu dois féliciter ce joueur qui a provoqué ce pénalty et celui qui l'a transformé, parce que à ce moment-là du match, avec ce moment de tension, il faut le mettre au fond. C'est pas simple à ce moment-là. C'est pas un match de championnat où t'as un péno à la 15e. Là, c'est un moment clé parce que tu n'es pas sûr si tu mets pas ce péno d'avoir une occasion et si t'es pas emmené et de pas être emmené à la prolongue. Donc voilà. Mais pour le reste, les joueurs offensifs, ouais, ils méritent à peine la moyenne ce soir. Forcément, t'as pas réussi.
Pour moi, la prestation ou la tactique plus générale du Paraguay, ça doit donner des idées justement au prochain adversaire de l'équipe de France. Alors évidemment, on sait que le Maroc ne va pas se jouer de la même manière. Mais quand on voit un petit peu comment nos offensifs ont roulé absolument sur tout le monde depuis le début de cette compétition, quand on voit justement là, cet après-midi, comment ils ont galéré contre ce bloc paraguayen, je me dis qu'aujourd'hui, les Paraguayens, ils ont réussi leur coup. Et c'est vrai qu'on peut revenir sur les cas individuels. Dembélé, qui pour moi a été très brouillon. Alors ça a été mieux en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, il a complètement disparu. Et puis surtout, tu l'as dit, mais Barcola et Olise. Alors je comprends, Daniel, et je suis d'accord avec toi que c'est beaucoup plus difficile pour ce genre de joueur avec ses qualités de jouer contre des blocs bas. Mais par rapport à ce qu'ils nous ont montré, moi, j'avais un peu plus d'espoir de les voir un peu plus briller. Et là, j'ai le sentiment que chacun est un peu tombé dans ses travers.
Qu'ils allaient les faire péter très vite et que ça ferait 2 ou 3-0.
Moi, si je dois reprocher quelque chose, et encore une fois, on essaie de trouver du point négatif à cette équipe de France qui est juste exceptionnelle depuis le début de la compétition. Mais par rapport à ce match-là, messieurs, j'ai trouvé que chacun essaie de faire un petit peu son numéro et on se rend compte que quand on joue de manière individuelle, ça ne fonctionne pas.
Vincent est avec nous au 32-16. Vincent, bonsoir.
Salut Gilbert, salut Daniel, salut Maxime, et salut, elle est partie, donc c'est pas grave.
Ouais.
Merci de me recevoir, les gars. Je voulais faire deux points rapidement.
Allez, vas-y.
Le premier, bravo déjà pour l'adaptation des joueurs depuis le début de la compétition face à l'arbitrage. Vous en avez parlé juste avant avec Daniel, où moi je suis d'accord complètement avec lui concernant l'arbitrage qui laisse beaucoup de bruit. Chose que les joueurs sont peut-être pas habitués. Je parle pas de la Ligue 1 parce que bon, on est des années-lumière de l'arbitrage Ligue 1, mais même niveau international, Ligue des Champions, je trouve que l'arbitrage est beaucoup plus vivant et les habitudes des joueurs ont sûrement dû changer. Et je pense que le staff y est pour beaucoup aussi dans l'adaptation du comportement des joueurs. Deuxième point, ça reprend ce que Maxime a dit à l'instant. Quand je vois le match de ce soir, je me pose des questions pour les prochains matchs de la France. Est-ce que les adversaires qu'on risque de rencontrer, alors je parle déjà en premier temps du Maroc, est-ce que leur style de jeu il peut se rapprocher du Paraguay de ce soir?
Sans déconner, vous les voyez jouer le Maroc depuis des années, c'est en aucun cas.
Non mais Daniel, c'est
différent. Ils vont pas faire le match Espagne-Portugal de 2022. Hein.
Ce qu'on veut dire, c'est que Daniel, un match dure 90 minutes, sur une tranche de 20 minutes, le Maroc peut être en mesure de se dire, écoute, le Paraguay a inquiété l'équipe de France de cette manière, on va se positionner en bloc.
Alors que ce soir,
le scénario dont tu parles, c'est le Maroc mène 1-0, il reste une demi-heure à jouer.
Oui, mais ça, c'est contre n'importe qui, ça donnerait ça.
Pas contre n'importe qui, la preuve contre le Pays-Bas, ils l'ont pas fait. Alors tu vas me dire, certes, ils devaient marquer ce but-là, mais aujourd'hui, je pense que le scénario.
Le Maroc va pas faire ce qu'a fait le Paraguay, ils vont pas tirer la chaîne avec les clous là, comme la police quand ils veulent arrêter quelqu'un dans la rue là, tu sais.
Le Maroc a aussi un rapport de force qui veut qu'aujourd'hui tu veux pas te retrouver en bloc bas contre l'équipe de France.
Bien sûr.
Moi je pars pas de ce principe là.
Vincent,
je pars du principe où depuis le début de la Coupe du Monde, tu l'as dit Gilbert, la France, vous l'avez tous dit, hein, et on est tous d'accord, la France elle impressionne vraiment par son jeu, l'adaptation. Le match de ce soir, c'était encore un match avec une physionomie vraiment différente avec l'adversaire qui fait qu'on a aussi pas vraiment changé notre style de jeu parce qu'on a toujours essayé d'attaquer par les côtés, de provoquer, et c'est ce qui donne le pénalty. Mais au final, le match de ce soir, l'objectif du Paraguay, tu l'as dit Daniel, c'était de jouer leur jeu et de se retrouver dans cette configuration un peu comme l'Allemagne et d'aller le plus loin possible pour viser les tirs au but. Et est-ce que les adversaires de la France, vu qu'ils voient que la France a tellement de qualité, Est-ce que l'objectif, du coup, ce serait pas de jouer
Non, mais tu attends, excuse-moi, mais tu n'improvises pas ça. Hein. Ça, c'est ouais, quelque chose que tu prépares. Le Maroc, depuis maintenant des mois, voire des années, ils sont passés à tout autre chose. Ça voudrait dire que sur ce match-là, d'un coup, tu vas aller voir avec un défenseur supplémentaire. Avec moi, franchement, j'ai du mal. Autant. Peut-être un milieu, et encore je dis ça, mais c'est, je jette ça comme ça, mais Amrabat au milieu en supplément pour mettre un petit peu plus de puissance dans la récup. Mais je vois pas, ils ne jouent plus comme ça, ils ne vont pas se renier. Ils iront mourir avec ce qu'ils préparent maintenant depuis des années, avec ce coach qui a été champion du monde.
Même si tu sais qu'en jouant comme ça, Daniel, tu t'exposes à te prendre des contre-attaques.
Mais tu t'exposes de la même façon à jouer en bloc bas en mettant un défenseur de plus si tu sais pas le faire, si t'as pas les joueurs pour le faire. Tu vas t'exposer, tu vas aller prendre le risque de changer tactiquement pour probablement
non,
perdre
Daniel,
le match à 80%,
dit,
alors que en
c'est
te reniant sur tout ce que tu travailles. Mais jamais
c'est
de la vie, voyons.
Mais contre le Brésil, par exemple, contre le Brésil, quand il y avait un but partout, les Marocains ont continué à jouer. Peut-être que contre l'équipe de France, avec ce qu'a fait le Paraguay, bah ça va donner des idées à Wabi en se disant on va peut-être pas trop ouvrir, on va bah plutôt essayer de
bloquer. Bien sûr, mais bien sûr, Max, t'es un très bon exemple avec le Sénégal. Mais bien sûr, faisons des conneries à l'appel. Mais arrêtez de croire
c'est
ça,
différent.
C'est fini ce football,
mais non, mais c'est différent. Le Sénégal, ils ont joué devant leur
tout.
But.
Ils
je te dis pas de jouer
ils
devant
ont
leur
fait
but.
Les choix qu'il fallait pas faire.
Ah bah si, le Sénégal, ils ont mis le but devant leur but et on a vu ce que ça a donné. Ils ont ramassé 3 goals contre
les c'est exactement ce que je te dis. Donc il faut pas le faire.
Mais non, mais il y a une différence entre jouer très bas et bloquer les lignes, en tout cas jouer avec un bloc compact comme on fait le Paraguay.
Mais pas si tu ne le fais pas, si tu ne sais pas le faire, tu vas pas t'improviser si c'est parce que tu travailles tout le temps.
Alors je vais donner un conseil aux Marocains. Excuse-moi Gilbert pour terminer. S'ils jouent en ouvrant leur ligne, je peux te dire qu'ils vont se faire rouler dessus avec toutes les qualités qu'ils
dessus,
ont.
Mais avec au lieu de perdre perds un à l'arrache, tu perds quand même.
Vincent, t'es d'accord avec ce que t'as entendu sur Barcola, Dembélé, Olivier, qui ont été moins bien.
Daniel dit parce que on change pas comme ça. De toute façon, une tactique d'équipe, il y a une préparation qui est faite en amont. Et je pense pas que ce soit lié à un match, donc j'avais déjà un petit peu ma réponse, mais je pense quand même que ça peut aussi faire questionner des fois le groupe, pas le groupe, je veux dire, mais pendant le match, ça peut faire questionner aussi la tactique d'une équipe, surtout vu la configuration d'un match, si on est mené au score ou pas. Là, on voit aussi qu'ils ont aussi voulu faire jouer sur la pression et puis peut-être avec l'objectif de faire expulser un joueur pour se retrouver à 10. Et puis se retrouver en supériorité numérique. Donc voilà, je suis d'accord avec Daniel. Je pense pas que le Maroc va changer son style de jeu, mais voilà, je pense que c'est des questions qu'on peut aussi se poser quand on voit le match de ce soir. C'était vraiment à chaud par rapport au match de ce soir que je voulais réagir.
Merci Vincent.
Merci à vous les gars. Vincent.
Bonne soirée. Dites-moi les gars, est-ce que les quatre de devant, on peut commencer à les appeler comme à la grande époque du football français, le carré magique?
Non, mais ce genre de truc, ça m'intéresse pas. Le genre
c'est
de surnom,
carré,
comme les 4 fantastiques au PSG et tout, ce genre de conneries, non. Non. À la fin, on verra. Mais de toute façon, carré magique, c'est une appellation qui date de quelque chose. Il faudra que tu trouves un autre surnom.
Ah, tu veux dire, on peut pas copier?
Non, pas tu trouves, un autre surnom. T'as jusqu'à la fin de la Coupe du Monde pour trouver. Parce que s'il gagne pas.
Bah, tu peux chercher aussi.
Hein. Oui, carré magique,
c'est toi
pas gagné
c'est toi
que
ça intéresse
le
surnom.
Non, mais là, c'était comme ça. Parce que
si
ça,
c'est toi que ça intéresse, c'est à toi de trouver.
Ça me venait. Voilà, après, le carré magique, le problème, c'est que, oui,
ils n'ont pas gagné.
Enfin, le carré magique, à l'époque de l'équipe de France, il existait déjà, ils n'avaient pas encore gagné. Bon, on va refaire l'histoire.